Bonjour mes frères et sœurs, nous voilà arrivés dans cette année 2019 et on va partir sur les chapeaux de roue. Je voudrais répondre à plusieurs questions que des internautes me posent. En général, ce sont des incrédules qui me la posent, ce sont aussi des juifs croyants en Dieu, en un seul Dieu, et des musulmans aussi qui sont choqués, pensant que nous sommes polythéistes alors que nous ne le sommes pas. Et je voudrais expliquer clairement qu'il n'y a qu'un seul Dieu, comme Dieu lui-même le dit, écoute ô Israël, il n'y a qu'un seul Dieu, voilà, il y a un seul Dieu, il n'y en a pas trois. Alors je sais que dans les religions, dans certaines religions chrétiennes, on dit que il y a un Dieu qui en trois personnes. Moi, je ne crois pas à cette chose-là. Je ne crois qu'une personne, c'est quelqu'un qui a une identité complète, et je ne peux pas croire que Dieu est une personne avec trois identités complètes. Non, il y a un seul Dieu, et je vais étudier ça avec vous aujourd'hui afin que ça soit clair et que vous compreniez bien qu'est-ce que vous êtes en train de faire sur terre, vous les chrétiens, et que vous sachiez répondre à ceux qui vous disent que vous êtes des polythéistes, donc des mécréants. Prions. Seigneur Jésus, merci de nous aider à comprendre ces choses et que nous puissions aller de l'avant avec la connaissance de ta parole et non pas de la tradition. Merci Jésus, parce que nous ne voulons pas que la tradition annule ta parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te prie. Je sais que tous ceux qui viennent m'écouter sont de bon cœur, avec une bonne disposition. Alors, il ne faut pas avoir peur de se poser des questions qui dérangent ou d'écouter des personnes qui dérangent avec des questions qui nous dérangent. Beaucoup de monde, comme je vous dis, me disent, mais comment est-ce qu'on peut croire à l'amour de Dieu le Père, qui n'a pas hésité à envoyer son Fils mourir sur une croix. C'est une question à laquelle je vais répondre là, parce que c'est une idée qui est loin d'être stupide. Réfléchissons un peu comme cet homme, à la façon de cet homme. Un, Dieu crée le monde, il sait tout, donc il sait que l'humanité va se rebeller contre lui. Il est Dieu, entièrement responsable de toute cette terrible histoire, de cette tragédie, mais il ne se mouille pas, il reste dans son ciel de gloire, bien tranquille, il se met en colère contre l'humanité, il veut la détruire, mais il reste en dehors de tout ça, il envoie son Fils. Voilà, il envoie Jésus pour venir sur la terre et puis pour mourir à notre place, pour calmer sa fureur, pour calmer la fureur du Père qui a tout créé, sachant tout déjà, ça tient pas debout. Septièmement, Jésus est venu au monde, donc il a fini par mourir dans d'atroces souffrances, et hop, le Père Céleste est de nouveau tout content, tout va bien, Madame la Marquise, il pardonne à tous les humains qui croient dans le sacrifice parfait de son Fils, lui s'est pas mouillé. Lui, le Père, c'est pas mouillé. Non, mais mes frères et sœurs, ça c'est un raisonnement. Je sais que beaucoup de chrétiens n'osent pas dire ça, mais quand même, dit comme ça, c'est vrai que ça fait horrible, mais réfléchissez, quel père humain ferait une chose pareille? Créer quelque chose tout en sachant que cette chose ne marcherait pas, puis ensuite se mettre en rogne et envoyer son Fils pour mourir afin de le calmer. Quel père humain ferait une chose pareille? C'est un plan horrible, en tout cas. C'est pas humain dans le bon sens du terme. C'est pas humain, c'est pas juste. Mais ce raisonnement est faux. Il est tout faux. Je vais vous expliquer pourquoi, et bibliquement, pourquoi cette idée est toute fausse. Parce que cette idée démontre une idée fausse. C'est un raisonnement qui part sur une idée fausse de la personne de Dieu. On va lire un texte. Dans Matthieu chapitre 1, verset 18 à 23. Écoutez bien. Ah, vous allez me dire, on le connaît ce texte. Ben oui, vous le connaissez. Alors, verset 1, 18, 23. Voici comment arriva la naissance de Yeshua, de Jésus. Lorsque Myriam, Marie, sa mère, fut fiancée à Joseph, c'est-à-dire Joseph, avant qu'ils n'aient vécu ensemble, elle se trouva enceinte par le Ruach Kodesh, c'est-à-dire par le Saint-Esprit. Joseph, son futur mari, était un homme droit et il décide de rompre les fiançailles discrètement plutôt que de tout étaler sur la place publique et de lui faire honte. Mais alors qu'il pensait à ces choses, un ange d'Adonai lui apparut dans un rêve et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Myriam comme épouse, car ce qui a été conçu en elle est du Ruach Kodesh, c'est-à-dire du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu l'appelleras Yeshua, Jésus, ce qui signifie Adonai sauve, Dieu sauve, car il sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que Adonai, Dieu, avait dit par le prophète Ésaïe, la Vierge concevra et mettra au monde un fils et ils l'appelleront Emmanuel, nom qui signifie Dieu avec nous. » Alors, tout est dit là, tout est absolument dit dans ces quelques lignes, mais encore faut-il en avoir la révélation. Voyons ce texte sacré incontestable et regardons bien ce qu'il dit. Marie est une jeune fille, elle est vierge, elle se trouve enceinte par le Ruach Kodesh, c'est-à-dire par le Saint-Esprit. Ça, c'est au verset 18. Question: qui est le père de Jésus? Réponse: c'est le Saint-Esprit. Autre question. Ah bon, je croyais que le Père de Jésus, c'était notre Père céleste. Réponse. Selon le verset 18, c'est le Saint-Esprit qui est le Père de Jésus. Et aucun croyant peut douter de cela. C'est écrit dans la Bible, dans ce qu'on appelle la parole de Dieu. Donc, c'est vrai. Joseph, le fiancé de Marie, voit que sa fiancée Marie est enceinte, alors il décide de la répudier discrètement, et c'est là qu'un ange de Dieu lui apparaît et lui dit « Prends Marie comme épouse, car ce qui a été conçu en elle est du Saint-Esprit. » Il enfonce encore le clou. Le Père de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Là, l'ange confirme que Jésus est le Fils du Saint-Esprit. Ensuite, l'ange dit à Joseph, « Elle mettra au monde un fils et tu l'appelleras Yeshua, Jésus, ce qui signifie « Dieu sauve, car il sauvera son peuple de ses péchés. » Question. Qui sauvera son peuple de ses péchés? Jésus, c'est lui le sauveur, c'est-à-dire Adonai sauve, Jésus, Adonai sauve, Dieu sauve. Question. Qui est Adonai? Alors, Adonai en hébreu, c'est la forme plurielle de Adon. Adon, ça signifie maître. Mais il faut savoir que, bien que le mot Adonai est pluriel, il se conjugue toujours au singulier. Comme par exemple, Elohim, c'est pareil. Elohim, c'est le pluriel, c'est un mot pluriel qui veut dire Dieu. Et c'est écrit « Les dieux créa les cieux et la terre ». Ça se conjugue toujours au singulier. Alors, on va aller plus loin, on va comprendre pourquoi c'est comme ça. L'ange dit à Joseph « Tu donneras à l'enfant le nom de Jésus, de Yeshua ». En fait, l'ange dit « Tu lui donneras le nom de Adonai sauve », c'est-à-dire « Tu lui donneras le nom de Dieu sauve ». C'est la même chose que de dire « Tu lui donneras le nom de Jésus », puisque Jésus signifie « Dieu sauve ». Et le verset 22 ajoute « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que Dieu avait dit par le prophète Ésaïe ». Vous trouvez ça dans Ésaïe 7, 14. Alors, tout ça pour que s'accomplisse ce que avait dit le prophète Ésaïe, « La Vierge concevra et mettra au monde un fils et ils l'appelleront Emmanuel ». Et ce nom signifie « Dieu avec nous ». Donc, d'après ce texte sacré de Matthieu 1, 18 à 23, nous apprenons que Jésus est Dieu avec nous. Il est Adonai, non maître au pluriel. Il est Dieu qui sauve. Adonai, ça signifie « maître ». Et le Père de Jésus, nous apprenons que c'est le Saint-Esprit. Cela devrait vous faire réagir. Réfléchissons. Supposons que vous avez vous êtes une femme, vous allez avoir un fils, et votre mari reçoit la visite d'un ange qui lui dit, eh ben, il faudra l'appeler, ce fils, il faudra l'appeler Roger, afin que s'accomplisse la prophétie qui dit qu'il s'appellera Richie. Vous trouvez rien de bizarre là-dedans ? Tu l'appelleras, tu lui donneras le nom de Roger pour accomplir une prophétie qui dit qu'il s'appellera Richie. C'est bizarre, non ? Vous n'avez jamais pensé à ça ? Eh bien, c'est pas bizarre du tout. Il faut penser à la façon du Moyen-Orient. Il ne pense pas comme nous. Et Dieu parle à des gens qui n'ont pas la même façon de penser que nous. Plus vous allez en Orient, plus c'est différent encore. C'est pas bizarre du tout. C'est écrit comme ça, afin que ceux qui cherchent trouvent, et que ceux qui ne cherchent pas n'y voient rien, ou voient des erreurs, et disent « Ah, vous voyez, il y a des erreurs dans la Bible. » Non. Dieu est un. Si tu es musulman, tu m'écoutes. Si tu es juif, tu m'écoutes, et tu m'entends. Je suis un chrétien, et je dis « Dieu est un, il n'y en a pas trois. Dieu est un. » Et la première de sa création est de parler. Il a créé sa parole. On va lire dans Colossiens chapitre 1, je crois, verset 15-17. Colossiens 1, 15-17. Jésus est l'image du Dieu invisible, c'est-à-dire qu'il est, Jésus est le Dieu invisible qui se rend visible. Alors je relis, Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et toute chose subsiste en lui. C'est en lui. C'est-à-dire que Dieu a parlé sa parole, elle vient de lui, elle est en lui, c'est sa parole, elle sort de lui. Elle commence à créer. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit que ceci, Dieu dit la parole, la parole, la parole. Dieu a tout créé par la parole. Jésus, né dans ce monde, est donc le Dieu visible. On l'appelle fils de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle fils de Dieu ? Parce que Jésus est Dieu, premier-né de toute la création, c'est-à-dire issu du Dieu unique. Quelque chose est sorti de Dieu, sa parole. Quand je parle, quelque chose sort de moi et va jusque dans vos oreilles. Et pour certains, ça va jusque dans votre cœur. Mais c'est moi ça. Ce que je dis, c'est moi. C'est la même chose. Jésus a créé toute chose. Question, qui a tout créé ? Dieu, le seul et unique Dieu. Et il a commencé par se manifester en tant que parole. Et c'est dans sa parole, c'est par sa parole, c'est par lui et pour lui que tout a été créé. Dieu parle et il crée. Jésus, en cela, Jésus est le premier-né de toute la création. Et il est appelé, Jésus est appelé la parole. On vient de le lire dans Colossiens 1,15. Aucun croyant ne peut rejeter ça. C'est écrit. Jésus n'est donc pas un deuxième Dieu ou une deuxième personne divine. Il est Dieu qui crée et qui fait subsister toute chose. Et puis, Dieu se fait chair. Ah, ça c'est encore autre chose. Ça c'est dans Jean 1, chapitre 1. Jean chapitre 1, verset 1, je vais vous le lire. Jean chapitre 1, verset 1. Voilà ce qu'il dit. Au commencement, la parole existait déjà. Ou dans d'autres versions, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors certains disent, voyez, il y avait Dieu, puis sa parole à côté. Non, c'est comme si vous disiez qu'il y a moi, et puis ma parole à côté, assis sur un autre siège. Elle était au commencement avec Dieu, ça veut dire qu'elle n'était pas contre Dieu. C'est-à-dire que Dieu est exactement comme ce qu'il dit. Ce qu'il dit est aussi divin que ce qu'il est. Tout a été fait par elle, c'est-à-dire par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, c'est-à-dire sans la parole. Et on vient de lire dans Colossiens que c'est Jésus qui a tout fait, c'est-à-dire que la parole, c'est Jésus. Et au verset 14, il est dit, « Et la parole s'est faite homme », ou dans d'autres versions, « Et la parole s'est faite chair, et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire semblable comme celle du Fils unique venu de Dieu, issu de Dieu. » La parole est issue de Dieu. Alors, j'essaie de redire ça un petit peu autrement. Ce verset signifie que ce que Dieu dit, c'est divin. Pensez-y. Ce que moi je dis est humain. Ce que Dieu dit, sa parole, c'est divin, c'est Dieu. Il ne peut pas y avoir quelque chose qui n'est pas divin dans ce que Dieu dit. Donc on dit, sa parole est divine et sa parole est devenue chair. C'est-à-dire qu'il est devenu chair. La parole était avec Dieu, c'est-à-dire qu'elle ne contredit jamais Dieu. Vous comprenez? Ce que Dieu dit, sa parole, c'est Dieu. Et au verset 14, la parole s'est faite homme. Dieu s'est fait homme. Alors, mes amis musulmans me disent, mais c'est impossible. Qu'est-ce qu'il y a d'impossible à Dieu? Celui qui me dit qu'il y a quelque chose qui est impossible à Dieu, c'est un mécréant. Tout est possible à Dieu. Dieu fait absolument ce qu'il veut. Il a même fait parler une ânesse une fois dans la Bible. Il ressuscite des morts, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Dieu s'est fait homme et Dieu a habité parmi nous en tant qu'être humain qui avait une gloire comme celle d'un humain issu du seul vrai Dieu unique, comme celle du Fils unique de Dieu venu du Père. Tout ça, c'est dans le verset 14 de Jean chapitre 1. Mais encore faut-il le lire correctement et en avoir la révélation avec le reste des Écritures. Jésus est la parole de Dieu qui s'est incarnée, qui est venue dans une chair semblable à la nôtre. C'est Dieu lui-même en personne qui est venu. Donc Dieu le Père n'est pas un père qui envoie son fiston se sacrifier, non. Jésus, homme, se sacrifiant, est Dieu qui s'est fait chair, qui se sacrifie lui-même. C'est pas Dieu qui est mort à la croix, c'est l'homme qui est mort à la croix. Et c'est pourquoi Dieu s'est retiré de l'homme Jésus, c'est pourquoi Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il s'est senti tout d'un coup, l'homme s'est senti homme complètement, Dieu s'est retiré là. C'est pas Dieu qui est mort à la croix, c'est l'homme Jésus. Souvenez-vous, le Père de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Déjà ça, ça devrait vous faire réfléchir. C'est pas une troisième personne de la divinité, le Saint-Esprit. Pas du tout. Le Saint-Esprit est le Père de Jésus, de Dieu qui s'est fait homme. C'est ce qu'on a lu dans Matthieu. Alors ça règle la question, non? Dieu le Père n'est pas le Père cruel qui envoie son Fils mourir à la croix. Dieu, notre Père à tous, est venu lui-même dans une chair semblable à la nôtre. Il a assumé toute l'histoire qu'il a créée, et cette histoire, il l'a pensée avant de la créer, et tout ce qu'il a fait, toute cette histoire, a un but, et nous avons un rôle à jouer dans cette histoire. Alors là, maintenant, je vais peut-être vous scandaliser encore davantage, mais j'espère plutôt que vous avez un cœur ouvert et que je vais vous faire réaliser une chose importante. Écoutez bien ça. On va lire dans Genèse, chapitre 3, verset 22. C'est Dieu qui parle et qui dit « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. » L'homme est devenu comme l'un de nous. Vous vous rappelez, Adonai, c'est le pluriel, qui est toujours conjugué au singulier. Elohim, c'est un mot pluriel qui désigne Dieu, mais qui est toujours conjugué au singulier parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais qui se manifeste de plusieurs manières différentes. Ce pluriel ne signifie pas, ni pour les juifs, ni pour les chrétiens, les vrais chrétiens, ça ne signifie pas qu'il y a plusieurs dieux, pas du tout. Ce mot pluriel signifie qu'il y a plusieurs manifestations de Dieu. Dieu en tant qu'unité, le Père créateur de tout et en particulier de la première création, c'est-à-dire lui-même, se créant lui-même, Jésus-Christ est l'image de Dieu, premier-né de toute la création, Colossiens 1,15, vous vous rappelez, on l'a lu. Et Dieu, le Saint-Esprit, planant sur sa création, comme c'est écrit dans Genèse chapitre 1, verset 2. Genèse chapitre 1, verset 2, disons-le, ça vaut la peine. Au commencement, Elohim, les dieux, créa, vous voyez, le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. L'Esprit de Dieu. Alors est-ce qu'il y a l'Esprit de Dieu et puis une autre personne qui est le Saint-Esprit de Dieu? Non. L'Esprit, c'est l'Esprit. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Ce même Saint-Esprit, le seul vrai Dieu, vint sur Marie, Matthieu chapitre 1, verset 20, c'est le même Saint-Esprit, c'est le même Dieu. Il n'y a pas trois dieux. C'est le même Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Bon, moi j'ai un esprit, c'est mon esprit. Et puis j'ai un corps, j'ai une âme, ça ne fait pas moi trois personnes distinctes. Et Dieu est venu, son esprit est venu sur Marie, et Jésus est ce même Dieu unique qui s'est manifesté au milieu de nous, comme le Dieu invisible s'est manifesté pour être visible. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Donc Colossiens 1,15. Dieu avec nous, Dieu parmi nous. Il n'y a donc pas trois dieux. Il y a un seul Dieu qui se manifeste en créant, en couvrant Marie, en planant au-dessus de la mer, en vivant sur terre, en mourant sur la croix. Il n'y a qu'un seul Dieu qui a fait tout ça et qui continue à travailler. Il n'y a pas trois personnes distinctes, il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu qui a tout fait. Pourquoi ? Pour se débarrasser du mal qu'il connaissait. Souvenez-vous, Genèse 3,22. Et l'Éternel dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Comment pensez-vous que Dieu, qui est absolument tout, puisse ne pas connaître ce qu'est le mal? Il le dit lui-même. Après que Adam et Ève aient péché, il dit, ben voilà, ils sont venus comme nous, en ce qui concerne la connaissance du bien et du mal. Donc Dieu connaissait le bien et le mal, et il avait un but, se débarrasser du mal. Ici-bas, nous sommes venus, nous autres chrétiens, pour travailler avec Dieu à la destruction du mal. Chaque fois que vous priez, chaque fois que vous luttez contre un mauvais esprit, chaque fois que vous faites le bien, vous luttez contre le mal. Jésus est venu pour détruire les œuvres de l'adversaire et nous aussi. On est là pour détruire les œuvres du diable, pour faire le bien à la place de faire le mal, etc., etc. Nous sommes ici pour détruire les œuvres du diable dont Dieu veut se débarrasser. Il veut se débarrasser du mal et il l'a créé. Le méchant, l'adversaire, pour s'en débarrasser. Proverbe 16,4. Alors dans Proverbe 16,4, c'est écrit que Dieu a créé tout dans un but, et même le méchant pour le jour du malheur, c'est-à-dire le jour de la destruction. Voilà pourquoi nous sommes ici-bas, mes frères et sœurs. On a une nouvelle année à commencer. Et on est là pour manifester la gloire de Dieu. On n'est pas là pour s'amuser et pour chipoter avec des doctrines, mais il faut quand même être au clair sur la vérité, parce que sinon on a l'air d'être des imbéciles qui croyons des choses complètement idiotes et même cruelles. Dieu n'a pas envoyé un pauvre innocent, Jésus, pour mourir afin d'apaiser sa colère. Non, 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 non. Dieu est venu lui-même dans un corps semblable au nôtre. Il s'est fait chair, la parole qui est Dieu s'est fait chair pour venir, et il a souffert, il est mort d'une mort atroce sur la croix. Il a donné sa vie pour nous, à notre place. Nous sommes là pour manifester la gloire de Dieu en croyant en lui qui est un et en l'invoquant lui seul, lui le seul vrai Dieu, dont Jésus est venu nous révéler le nom. Il dit « Je leur ai révélé ton nom ». Ah oui, quel nom nous a-t-il révélé? Le nom de Jésus, Dieu qui sauve, Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Vous comprenez pourquoi il fallait l'appeler Jésus, qui signifie Dieu qui sauve, pour accomplir la prophétie qui dit qu'il s'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu est avec vous pour vous sauver et pour vous, pour que vous puissiez être utile dans son œuvre, pour se débarrasser du mal et pour faire le bien. Et pour glorifier son nom, que le nom de Jésus-Christ, de Yeshua, soit glorifié à jamais. Il est le seul vrai Dieu. Voilà, j'espère que ceux qui ne comprenaient pas maintenant comprennent. Si vous n'avez pas bien compris, vous pouvez réécouter la prédication, prendre des notes, réfléchir, regarder les versets, pour être sûr que ce que je vous dis est vrai, et puis changer d'idée. Arrêtez avec votre histoire de un Dieu en trois personnes distinctes. Ça, c'est des gens qui ne sont pas éclairés du tout qui croient ça. Vous vous rendez compte, si Dieu est un, mais qu'il est trois personnes distinctes, ça voudrait dire qu'il y a quand même une certaine division là-dedans. Il a envoyé quelqu'un d'autre que lui-même, Père éternel, pour mourir sous la croix. C'est affreux. Non, il est venu lui-même, tellement il nous aime, tellement il aime les siens, et il veut se débarrasser du mal, et voilà pourquoi il a préparé un étang de feu dans lequel il jettera Satan et tous ceux qui le suivent. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous aide à comprendre ces choses, et que vous puissiez être clair dans votre cœur, dans votre pensée, et que vous sachiez aussi l'exprimer si jamais quelqu'un vous pose la question au sujet de Dieu en trois personnes distinctes. Ou d'un Dieu cruel qui envoie son fiston faire le sale boulot. Que Dieu vous bénisse. Merci Jésus de m'avoir aidé à préparer ce message. Je suis content de le prêcher comme le premier message de cette année. Je te demande que mes frères et sœurs comprennent. On n'est pas là seulement pour se réjouir, pour se fortifier et pour se chatouiller sous les ailes. On est là aussi pour apprendre. Eh bien, je te demande, Seigneur, que mes frères et sœurs aient pu vraiment apprendre quelque chose aujourd'hui qui leur sera utile. Merci Jésus. Amen. Allez, au revoir.